Vous allez entendre un enregistrement de l'émission La Malle à musique, consacrée à Stéphane Kaya, qui est passé le samedi 14 juin 2008 sur les ondes de Fréquence Protestante. Je vous rappelle que vous pouvez commander sur le site de Fréquence Protestante les cassettes de toutes les émissions qui sont passées sur cette chaîne. L'adresse du site est http://www.fréquenceprotestante.com.
Stéphane Kaya, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous dirigez depuis maintenant 54 ans l'ensemble vocal qui porte votre nom, mais vous êtes aussi compositeur. Vous avez donc dirigé des chœurs et pas seulement cet ensemble vocal qui est un ensemble amateur, mais aussi des ensembles professionnels. Comment on peut revenir peut-être pour commencer ce portrait de vous aujourd'hui à votre jeune temps et comment s'est décidé pour vous de diriger les chœurs ?
C'est une longue histoire, mais pour faire bref, arrivé à 18 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'avais hésité entre différentes voies possibles, VOIOS, hein, bien sûr. Et puis la musique a fini par s'imposer. Il était un peu tard pour être instrumentiste. Tout le monde sait bien que pour faire une carrière d'instrumentiste, il faut commencer jeune. Voilà, donc je m'étais orienté un petit peu vers l'orgue. Comme j'étais à Lyon, on m'avait conseillé, le chant choral m'intéressant beaucoup, de rencontrer César Geoffrey, à ce moment-là, qui sévissait, si l'on peut dire, dans cette bonne ville, et même dans toute la France, d'ailleurs, voilà, dans les débuts d'Accœur-Joie. Ce que je fis, et il m'a encouragé à diriger, m'a fait confiance d'ailleurs, moi qui étais quelqu'un de peu expérimenté encore et d'un peu timide, il m'a poussé pour être devant des groupes comme ça, m'en a confié quelques-uns. J'avais une chorale, il me donnait une chorale paroissiale, j'avais une chorale communiste qui répétait évidemment le dimanche matin, c'était très, très éclectique. Mais c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes, et puis en même temps, évidemment, je faisais mes études musicales au Conservatoire de Lyon, et je faisais aussi des stages pendant l'été, des stages de direction chorale, il y en avait très peu à ce moment-là, ça a beaucoup changé maintenant. Mais enfin, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, quoi.
Au fond, une de vos spécificités, si on comprend bien, c'est que vous avez d'emblée dirigé et enseigné la direction. C'est-à-dire que vous avez eu une action pédagogique qui est vraiment un ancrage de votre carrière.
Quand je parle de stage de direction, je parle d'abord des stages que j'ai suivis. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, je peux même donner une date, en 1952, je n'étais pas bien vieux et vraiment très peu expérimenté. Quand j'y pense maintenant, c'est quand même assez drôle. On m'a confié un stage qu'on appelait de direction. Alors, il faut faire très attention à ce mot qui peut recouvrir des tas de choses. Et c'était en fait assez modeste. Mais avec des gens qui découvraient en fait à travers les essais de direction qu'ils faisaient, qui découvraient ce qu'était le chant choral, quoi, qui découvraient ce qu'était la polyphonie. Car c'est une excellente façon, effectivement, de rentrer dedans. Même si après, on ne devient pas un chef de chœur patenté, prestigieux, hein, bien sûr. Voilà. Mais donc, c'est vrai qu'assez vite, on était poussé. Il faut dire qu'il y avait une demande fabuleuse à ce moment-là. La demande était très forte. Il y avait aussi beaucoup à faire parce que le niveau, puis c'était après la guerre, etc., était en général assez bas, assez modeste. Je me rappelle par exemple que pour la formation vocale, on disait « Ah non, pas de formation vocale, surtout pas, parce que ça va vous rendre vos voix trop professionnelles, vous allez prendre du vibrato. » Et alors le vibrato, quelle horreur, n'est-ce pas ? C'est pas de ça. Alors c'est vrai que les répertoires qu'on chantait en général à ce moment-là, qui étaient des répertoires plutôt populaires, ou alors de la Renaissance, ne nécessitaient pas, c'est vrai, des voix épanouies, des voix développées, je veux dire, hein, pas des voix lyriques, quoi. Voilà. Donc la formation vocale était un peu suspecte, je dirais. Hein. Les professeurs de chant étaient tenus un peu à l'écart. C'était comme deux mondes différents. Et les choses maintenant ont beaucoup changé, c'est-à-dire que ces mondes se sont réunis, se sont retrouvés, se sont entendus ensemble. Donc voilà, c'est là qu'on mesure un peu tout le chemin parcouru, quoi. 50 ans.
Vous êtes inscrit donc dans votre jeunesse dans le mouvement Accœur-Joie, c'était cette dynamique-là ?
Oui, tout à fait. Non sans réticence d'ailleurs, je dois le dire, mais enfin c'était aussi ce que j'avais sous la main, c'était là que j'avais des amis, c'est là que j'offrais évidemment, puisque c'était le premier à avoir désiré le mouvement, non pas à l'avoir fait d'ailleurs, ce sont des gens autour de lui qui l'ont créé véritablement, qui ont fait les structures, mais c'est quand même lui qui a poussé tout ça. Alors c'est vrai, et en même temps j'étais très attiré parce que ce mouvement était aussi un tout petit peu replié sur lui-même, et d'ailleurs on peut penser qu'il l'est resté un peu, et moi j'avais envie d'aller voir dans toute la musique, dans l'ensemble de la musique, j'étais attiré par énormément de choses à côté. Et le fait que, alors après j'ai passé les diplômes, ce qu'on appelle maintenant le CAPES, pour devenir professeur de musique, parce qu'il fallait gagner sa vie. C'était pas une vocation, être professeur de musique dans les collèges et lycées, comme on dit. Donc, on passait ce qu'on appelait à ce moment-là le CAEM, Certificat d'aptitude à l'éducation musicale et au chant choral, que j'ai passé en deux parties, en 49 et 50. Et en 50, la deuxième partie, on m'a proposé de venir à Paris, ce que j'ai accepté. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai rencontré un milieu musical extrêmement riche, forcément. Et bon, c'est comme ça que je me suis fait sur le tas aussi, hein, en allant au concert partout, en lisant des partitions, en rencontrant énormément de gens et en suivant des cours, bien entendu.
Alors, je vous propose de commencer avec le tout premier disque de l'ensemble vocal Stéphane Caillat, avec une pièce de Clément Jeannequin, Ouvrez-lui.
Ouvrez ! Hé, Jeanneton ! Ouvrez-moi lui ! Hé, Jeanneton ! Mamie ! Votre mère est à 7 heures endormie !
Que voulez-vous ? Mon Dieu ! Mon Dieu, parlez plus bas !
Oh, ouvrez donc !
Ma mère ne dort pas. Si elle vous voit, elle en sera mariée.
Ouvrez-moi, lui. Hé, Jeanneton, mamie.
Il y a quelques instants, Stéphane Caillat, de l'ouverture à toute la musique, c'est-à-dire, ça veut dire vraiment jusqu'au contemporain, le plus contemporain. Je sais que vous avez, parce que j'ai moi-même participé à ces travaux-là quand j'étais jeune avec vous, aussi monté des expériences liées à la musique contemporaine, la plus contemporaine. On ne va pas en écouter aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas tout écouter, mais est-ce qu'on peut en parler un peu ?
J'ai toujours été très curieux, donc, de la musique du XXe siècle, que je mettais, et je dirais encore maintenant, ce qui peut scandaliser certaines personnes, que s'il devait me rester une chose à garder, l'histoire de l'île déserte habituelle, quoi, qu'est-ce que vous emporteriez, enfin bon, ça serait la musique du XXe siècle. Alors comment vous ne vous sacrifieriez Bach et Mozart? Ben oui, oui, parce que je me rappelle par exemple, et là je me rapproche un peu de votre question, de ma découverte à Paris, déjà à Lyon d'ailleurs, de Bartok, et du choc que j'ai eu à la première audition où il n'y avait pas grand monde, de la musique pour cordes célestes et percussions de Bartok. J'avais même écrit un article dithyrambique après en disant ça y est, j'ai découvert le génie du XXe siècle. Quoi. Et alors après, mais plus tard, donc quand on arrive dans les années 68, comme par hasard, évidemment, là mes pas et ma curiosité m'ont amené auprès de ce qu'on appelle le GRM, le groupe de recherche musicale de la radio, et avec des amis comme Guy Rebel, François Bell et d'autres d'ailleurs, et j'ai été amené comme ça à collaborer à ces recherches, et donc à faire ce que sans doute vous évoquiez là, c'est-à-dire des expérimentations sur des chœurs, sur la voix, qui semblaient à ce moment-là tout à fait nouvelles, et auxquelles nous nous sommes prêtés, en effet, pendant de nombreuses années. Oui.
Alors, une illustration musicale qui n'est pas du XXe siècle, avec une pièce de Joseph Haydn à présent, Die Beredsamkeit, l'éloquence, avec donc toujours l'ensemble vocal Stéphane Kaya, et au piano Anne Renaud. Un peu chaotiquement à ce dont on parlait tout à l'heure sur vos débuts dans le cadre, quand même, malgré vos réticences, comme vous disiez, du mouvement à cœur joie, on est frappé, et on va le voir dans les musiques que vous avez choisies pour cette émission, par le fait que vous êtes très amateur de musique très savante, et pas du tout les musiques populaires qui étaient un peu les choix de à cœur joie dans le temps. Et même dans des musiques simples comme Haydn ou comme Jeannequin, simples, c'est-à-dire efficaces dans leur expressivité, il y a une science et une vraiment un art polyphonique qui est à son sommet. Alors, vous êtes quand même un homme qui, du côté de la polyphonie, a des oreilles extrêmement développées et qui cherchait à développer ça chez vos choristes.
Oui, je pense que nous serons bien d'accord. Le savant n'exclut pas le populaire. Je ne trouve pas le bon mot, n'est-ce pas ? Bon, peut-être accessible, bien sûr, car il y a des chansons de Jeannequin, puisque vous venez de le citer, qui sont certes dans l'écriture extrêmement savantes, et qui peuvent être d'un abord extrêmement agréables tout de suite, d'entrée de jeu, et donc accessibles à des oreilles qui ne perçoivent pas toujours le côté savant, bien sûr, la science que ça cache, mais c'est ça que j'aime justement, pas, et dans Haydn c'est pareil, parce que Dieu sait qu'il peut avoir un côté assez facile d'abord, voire humoristique, voire bon enfant, et que derrière, il y a évidemment un métier absolument fabuleux qu'on ne cesse jamais de découvrir. Alors c'est vrai que je vais très volontiers toujours, vers des musiques, comme vous dites, savantes, c'est-à-dire, si je reprends le mot de Victor Hugo, qui parlant des symphonies de Beethoven, dit voilà des musiques qui pensent. Alors moi, j'ai besoin de musiques qui pensent. Mais contrairement à ce que l'on dit parfois, ça n'exclut absolument pas la sensibilité et l'émotion.
Diriger des musiques qui pensent, comme vous dites, de façon très fine et belle, ça veut dire aussi essayer d'insuffler chez les musiciens que vous avez en face de vous, même s'ils sont amateurs, quelque chose d'une intelligence sonore que vous essayez d'insuffler ou bien que vous recherchez chez eux et que vous considérez qu'ils l'ont déjà.
Qu'ils l'ont déjà, j'en sais rien, mais que je cherche à l'insuffler, c'est évident. Mais ce n'est pas de propos délibéré, c'est quand on se retourne, après un passé déjà long qui est le mien, qu'on se rend compte que c'est comme ça. Parce qu'on est comme ça, puis c'est tout, on n'y peut absolument rien. Donc c'est vrai que moi je ne peux pas soit faire chanter des musiques où je ne peux plus, parce que je l'ai beaucoup fait, aussi un peu par nécessité, bien sûr, mais je ne peux plus faire chanter des musiques dans lesquelles je ne rentre pas à 100%, qui ne me correspondent pas totalement. Et effectivement, le faire partager, ben ça va de soi, c'est-à-dire que si je peux pas faire des musiques autrement, c'est comme je travaille avec d'autres et que je fais chanter d'autres et que la plus grosse partie de ma vie professionnelle s'est passée à faire découvrir, à faire monter, enfin progresser des amateurs, ben oui, tout à fait, c'est les faire rentrer dans ce domaine-là. Alors, il y en a qui ne veulent pas y rentrer, bien entendu, mais il y en a d'autres qui en sont très reconnaissants.
Alors, en parcourant le répertoire que vous avez enregistré, Stéphane Kaya, à la tête de l'ensemble qui porte votre nom, nous pourrions poursuivre avec une pièce de Maurice Jaubert, « Inviolata » pour voix de femme, avec à l'orgue Valérie Aubertin. Quelque chose de très beau et très fascinant dans l'expérience de chanter en chœur et aussi d'ailleurs d'écouter des chœurs en général pour le grand public, c'est l'impression que quand des voix se mettent ensemble, il se dégage très, très rapidement, si le chœur est de bonne qualité et son chef aussi, une forme de ferveur, même si ce n'est pas de la musique religieuse. Comment vous comprenez cette ferveur ?
C'est un mystère, ça. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Car ce phénomène que vous décrivez, et en connaissance de cause d'ailleurs, c'est évident. Alors, c'est pas évident tout le temps, bien entendu. Quelquefois, il faut ramer, comme on dit, pendant quelques heures, voire quelques semaines, pour que se déclenche un moment miraculeux où les voix s'oublient elles-mêmes, hein, pour former un ensemble qui est un peu inattendu, une sonorité qui tout d'un coup naît comme ça, mais il faut pour cela remplir un certain nombre de conditions, non seulement de sûreté d'exécution, bien entendu ça va sans dire, c'est la base, mais aussi d'écoute et de détente. C'est-à-dire il y a un moment où on peut lâcher prise un peu, être moins préoccupé par ces attaques, ces nuances et tant d'autres choses, et où la musique va naître, quoi, tout simplement, hein, c'est tout. Mais c'est vrai que le son du cœur peut être assez miraculeux.
Francis Poulenc, Tristis est anima mea, extrait des 4 motets pour un temps de pénitence par l'ensemble vocal Stéphane Kaya, dirigé par Stéphane Kaya. avoir chanté sous votre direction, Stéphane Kaya, avouons-le, enfin explicitement, il y a une chose que j'ai toujours trouvée très, très intéressante et très parlante pour nous autres, les gens qui essayent de chanter, c'est que vous avez une gestique, contrairement à beaucoup de chefs autres, ou peut-être, je ne sais pas, d'une autre école, très souple et extrêmement suggestive, c'est-à-dire à la fois d'une précision telle que on comprend intuitivement ce que vous souhaitez obtenir, mais en même temps pas du tout une gestique rythmique saccadée. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais comment vous définiriez vous-même votre propre gestique et dans quel esprit elle s'est construite?
Alors ça, c'est une longue histoire. J'ai commencé à prendre conscience de ce que pouvait être la direction en 1970 par un stage de direction d'orchestre que j'ai fait avec Igor Markevitch. Un stage d'ailleurs très difficile parce que j'étais déjà plus un jeune homme et lui ne s'intéressait qu'aux jeunes qui pouvaient entrer complètement qu'il pouvait former totalement. Donc nous étions quelques-uns de la quarantaine et qui étions mal vus. Mais par contre, d'observer ce qui se passait, d'écouter cet homme, de le voir diriger et de faire en soi-même aussi cette révision, cette remise à jour. Qu'est-ce que c'est que la direction que je suis incapable de définir, même à l'heure qu'il est et à l'âge que j'ai. C'est extrêmement difficile. Je me rappelle d'une petite anecdote que j'ai souvent racontée. Je me trouvais avec un chef de chœur autrichien qui enseignait la direction de chœur à Graz. Et on était au bistrot, et puis on baragouinait le français, parce qu'il parlait un petit peu, et il me dit, la direction de chœur, c'est pas difficile, il s'agit de savoir quand on fait des points et quand on fait des ronds. J'ai pas compris tout de suite, je lui ai demandé un peu d'explication, et puis après, souvent, dans mes cours de direction, j'ai rapporté cette anecdote, parce que c'est exactement ça. Et je sais pas si ça répond un peu à votre question, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que la rythmique, c'est faire des points, battre la mesure pour être, pour employer un terme que tout le monde connaît, bien sûr, et puis suggérer la musique tout en restant rythmique. Et alors voilà, ça c'est là qu'est tout le, je sais pas quoi moi, je sais pas comment dire, la recherche en tout cas, hein, que je peux avoir, c'est-à-dire que je peux avoir, et c'est pas je, hein, c'est tout le monde bien entendu, mais c'est vrai que je fuis la battue de mesure. Charles Munch disait « Je ne bats pas la mesure, je la suggère ». Bon ben voilà, quoi, on est aussi dans ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la mesure, le temps, le tempo soient vécus intérieurement. Mais je suis convaincu que quand un chef d'orchestre ou de chœur, peu importe, vit intensément un tempo intérieurement, il va le traduire de toute façon, et même et surtout s'il ne bat pas la mesure. C'est ça. Et par contre, il y a tellement d'autres choses à suggérer à partir de ce cadre, qui peut devenir rigide et parfois aboutir à une musique, hélas, un peu mal faite, un peu terre-à-terre, un peu rigide, parce que ce qui est important, c'est non pas la mesure, mais le rythme qui dépasse de loin tout ça, et le phrasé, donc, qui en découle automatiquement. Voilà. Donc c'est ça, la recherche. Mais ça n'est qu'une recherche, ça n'est jamais fini, et je me demande si ça s'apprend. Bien qu'ayant enseigné moi-même la direction de chœur, et ayant reçu des cours, bien entendu, je me demande si ça s'apprend. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai appris, c'est par l'observation, finalement. Enfin, l'essentiel de ce que j'ai appris, pas uniquement, bien sûr. Il y a quand même un certain nombre de bases techniques, mais assez courtes. Hein. Et le reste, c'est l'observation. Écouter en voyant diriger. Et retenir. En faire son miel, si c'est possible.
Alors je propose d'écouter un enregistrement récent de l'ensemble vocal Stéphane Kaya que vous dirigez avec une pièce de Franz Liszt, La Veverum Corpus. Hors même l'importance de la pulsation et tout ce qui concerne le rythme dans la direction de cœur, qui est une évidence ne serait-ce que pour la mise en place, mais même si vous en parlez de façon beaucoup plus approfondie, l'autre élément, paramètre musical, si on peut employer un terme aussi étroit en musique qui est magnifique dans la musique chorale, c'est l'harmonie. Et vous avez choisi quand même pour le programme de ce soir des œuvres harmoniquement très intéressantes. Par exemple Poulenc, par exemple Liszt. Alors, vous diriez que vous avez une oreille spécialement sensible aux harmonies comme ça, très, très tourmentées ou très fines de compositeurs du passage du 19e au 20e siècle ou...
Oui, parce que mon goût, comme je disais tout à l'heure, me porte vers la musique du 20e siècle. Donc si on part de Debussy, Fauré, Ravel, ben évidemment ce sont d'immenses harmonistes. Moi je suis pas un contrapuntiste forcené, quoi. C'est-à-dire un peu comme mon ami Maurice Ohana, je vais difficilement, enfin lui, il employait des mots bien plus durs que les miens, hein, vers la musique germanique, bien que j'en fasse énormément. Il y en a des exemples, je crois, dans ce qui est entendu dans cette émission. Bon, bien sûr, j'en fais énormément. On fait Brahms, on fait Bruckner, on fait etc. Mais ma nature profonde, mon goût profond, et peut-être mes racines, tout simplement, hein, font que l'harmonie et le raffinement harmonique m'enchantent, quoi. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors, bon, c'est tout. Et quand j'écris de la musique, c'est surtout harmonique parce que, d'abord, ma science contrapuntique n'est pas immense, et, tout simplement, quoi. Et puis qu'il y a dans le maniement de l'harmonie une sensualité, une immédiateté, quoi. Et puis la couleur. On a souvent dit de façon un petit peu banale, mais pas fausse, je trouve, que si la mélodie est donc le contrepoint, puisque si on pense que le contrepoint est un mélange, est une superposition de mélodie, était le dessin, n'est pas correspondé au dessin pour les arts visuels, autant l'harmonie peut correspondre à la couleur, quoi, tout d'un coup, hein, les taches de couleur, voire Messiaen qui en parlait savamment et qui voyait des couleurs dans ces harmonies. Alors, je suis loin de tout ça, mais enfin, toute proportion gardée, c'est un peu ça.
Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, chez des compositeurs comme Poulenc ou Liszt ou Duruflé, qui ont composé des choses tellement merveilleuses dans le domaine de la musique religieuse, que c'est aussi l'harmonie qui inspire vraiment la dimension philosophique de la musique, enfin, plus que d'autres paramètres de la musique?
Oui, philosophique, je ne sais pas. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain dans lequel je me sens peu à l'aise. Mais bon, il est évident que Poulenc, c'est un harmoniste. Bon, le contrepoint chez lui, quand il se met à en faire un petit peu, on voit bien que c'est pour voilà, pour faire un clin d'œil, pour dire oui, je sais combiner deux phrases, mettre mélodie en canon, oui, mais ça va jamais loin. Il revient à ses chers accords où on le voit comme s'il était sur le piano avec beaucoup de sensualité, comme je disais tout à l'heure, ça c'est absolument évident. Un type comme Ohana, qui a été très proche, qui a été un ami, est effectivement aussi un harmoniste. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Un troisième musicien avec lequel j'ai travaillé, c'est Maurice Duruflé, qui lui me semble bien combiner les deux. C'est-à-dire avoir une musique, parce que c'est aussi un héritier de, élève de Paul Dukas, un héritier des Debussy, etc., et tous les musiciens du début du XXe siècle. Mais c'est un type qui avait une science d'écriture tout à fait complète. Avec son style, certes, un peu traditionnel, mais admirable et tout à fait inspiré, hein. Alors lui, effectivement, il y a à la fois chez lui la sensualité harmonique, évidente aussi, et puis un art du contrepoint qui est très 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 savant quand on analyse ses œuvres.
Donc de Maurice Duruflé, vous avez choisi de nous faire entendre l'un des quatre motets sur des thèmes grégoriens, Ubi Caritas.
Thank you.
On parlait de sonorité tout à l'heure du chœur. Il y a un domaine très important dans votre activité dont on n'a pas encore parlé. C'est la musique de chambre vocale où vous avez été à la fois chanteur dans ce domaine-là il y a longtemps et aussi, évidemment, vous avez fait travailler des quatuors un par voix dans beaucoup de circonstances.
Oui, c'est-à-dire, c'est une chose qui n'a pas couru ma vie professionnelle, ça, et qui continue. C'est-à-dire, j'avais commencé par créer un quatuor vocal d'homme, dans lequel je chantais à ce moment-là, d'ailleurs, au début à Paris, qui n'a pas eu une vie très longue, mais enfin, il y a un disque qui est là. Ensuite, il y a eu le quatuor vocal Stéphane Caillat, toujours, bon, restons modestes, voilà, que je dirigeais, alors curieusement, parce que le répertoire était surtout avec piano, et nous découvrions à cette époque, ce qui ne sera plus le cas maintenant parce que c'est plus connu, le répertoire abondant de Brahms, de Schubert, de Haydn, voire de Mozart, j'en passe, enfin, etc., Schumann. Et nous avons enregistré là, et nous avons fait beaucoup de concerts d'ailleurs, avec des 4 chanteurs professionnels, c'était tout à fait passionnant. Mais surtout pour ce répertoire-là, et c'était dirigé. Et puis alors, plus récemment, mais ça fait quand même 20 ans, un groupe consacré à la musique de la Renaissance, principalement, au sens large, du 15e au 17e siècle à peu près, per cantare et sonar, voilà, pour chanter et pour jouer, donc ça veut dire qu'on peut s'adjoindre des instruments aussi. Il y a un quatuor vocal de base dans lequel je chantais, et qui peut s'adjoindre d'autres chanteurs pour chanter des musiques à 5 ou 6 voix ou plus, et puis des instruments éventuellement voilà, pour faire cette musique de la Renaissance. Donc la musique de chambre vocale reste toujours pour moi une chose absolument fondamentale. S'il y avait une chose à retenir pour moi, ce serait celle-là, à garder, à continuer. J'aimerais par exemple continuer maintenant à faire travailler des petits ensembles vocaux, non seulement parce que c'est moins prégnant, moins fatigant que la direction chorale proprement dite devant un groupe important, mais parce que ce type de musique et l'engagement qu'il implique de la part des chanteurs, y compris amateurs bien entendu, hein, parce que surtout, est absolument fondamental. Quoi.
Donc pour illustrer le domaine de la musique de chambre, vous avez dirigé pendant un temps Stéphane Caillat, donc un quatuor qui portait votre nom, avec lequel vous avez enregistré, entre autres, les Zigeunerlieder de Brahms. Nous écoutons le dernier, Liebe Schwalbe.
Liebe Schwalbe, keine Schwalbe, trage fort mein kleines Briefchen, flieg zu Hause, fliege schnell und fliege deine Liebchen
de votre travail très riche sur le monde polyphonique et de votre notoriété, vous avez été amené, Stéphane Caillat, à plusieurs reprises à occuper des fonctions dans des organismes tels que d'une part Radio France, d'autre part le Centre Polyphonique de Paris. Alors est-ce qu'on peut évoquer ça? Comment ça s'est fait et qu'est-ce que vous y avez fait?
Oui, alors il y a énormément de choses à raconter, mais ce serait trop long. Comment ça s'est fait? C'est toujours le hasard, c'est toujours les rencontres, c'est toujours des demandes extérieures qui arrivent, etc. On me dit un jour, effectivement, dans les années 60, c'était Marcel Courreau à la radio qui me dit, tiens, nous cherchons des chefs de chœur pour faire des préparations, non pas pour être chef de chœur en titre, mais pour au cachet, faire telle préparation, telle heure, etc. Ce que j'ai accepté, d'ailleurs, j'étais à une époque où j'avais un appétit féroce et où j'acceptais presque tout ce qui se présentait, en me disant, voilà, tout ça, c'est peut-être pas exactement ce que je cherche, mais ça va m'apprendre quelque chose. Et là, ça a été le cas. Au cœur de la radio, Il faut préparer des œuvres, on vous téléphone, on vous donne une partition, et puis quelques jours après, il faut être devant le chœur avec 110 chanteurs qui sont des professionnels, et pas toujours tendres, avec les chefs, bien entendu. Peut-être ont-ils raison, d'ailleurs, j'en sais rien. Et donc, on est observé, etc. Et il ne s'agit pas de faire des bêtises, quoi. Alors ça, c'est une école absolument fabuleuse. Je n'en regrette pas du tout, bien que ce soit difficile, bien sûr. Hein. Et de faire un répertoire que je ne pouvais pas faire avec des chœurs d'amateurs. Alors, d'autres structures de formation, vous avez évoqué le centre que j'appelais à ce moment-là d'un titre un petit peu long et un peu prétentieux, Centre d'études polyphoniques et chorales de Paris. C'est devenu après moi Centre d'art polyphonique, d'une façon plus brève, plus voilà. Bon, mais alors ça c'était une structure de formation qui a été une aventure formidable. Je suis resté 10 ans, pas toujours facile non plus, bien sûr. Qu'est-ce qui est facile, hein, mais qui permettait de. On trouvait que il y avait énormément de stages. Mais nous travaillions, mes collègues et moi, beaucoup par stage, c'est-à-dire en voyant des gens et en ne les revoyant plus. Ou en les revoyant un an après, ou 2 ans après, quelquefois plus du tout. Bon, on disait quand même, il faudrait un suivi dans tout ça. Hein. Qu'est-ce qui forme les choristes, les chefs de chœur, etc., les formateurs vocaux, parce qu'à ce moment-là, les chorales commençaient, heureusement, à s'intéresser beaucoup à la formation vocale, il y avait beaucoup de demandes dans ce sens-là. Bon, alors, créer une structure, et c'était la première en France qui a ensuite fait tache d'huile, il y en a eu partout, c'était absolument une chose absolument passionnante. Et puis d'essayer d'inventer avec des collègues et des amis, d'inventer des pédagogies, d'expérimenter, etc. Alors ça, c'était absolument fabuleux. Voilà, deux exemples. Aussi, des collaborations avec des chœurs professionnels, comme le groupe vocal de France, avec lequel j'ai été amené à faire un concert. J'ai arrivé à diriger aussi des orchestres, moins fréquemment que des chœurs, parce que mon métier reste quand même la direction de chœur. Mais je trouve que la direction d'orchestre est parfaitement complémentaire, et que tout chef de chœur, professionnel en tout cas, doit approcher l'orchestre d'une manière ou d'une autre, parce que ça aussi, on apprend énormément à faire ça. Non seulement parce qu'on est amené à faire des œuvres qu'on ne ferait pas sans ça, ça c'est évident, mais aussi par le contact avec les musiciens, même s'il y a des déboires, hein, c'est évident. On apprend énormément. Voilà, faire flèche de tout bois.
Alors, il y a une corde à votre arc dont on n'a pas parlé. Vous parlez de flèche et moi je parle d'arc. Moi, je n'étais pas volontaire, mais bon, je crois que le lien se fait bien. C'est la composition. Alors vous composez presque depuis toujours. En tous les cas, vous avez composé dans des cadres assez divers et des choses assez diverses.
Oui, non, pas des choses si diverses que ça, parce que c'est toujours resté justement dans le domaine choral ou touchant au choral ou à la voix. J'ai fait très peu de choses, ça m'est arrivé bien entendu, pour instruments. Et ça m'est arrivé, puis maintenant j'aurais envie d'essayer un petit peu. Mais attention, être compositeur, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Hein. Quand on fréquente quotidiennement les Haydn, Ohana, je mélange exprès, hein, à dessein, hein, voilà, hein, du Ruffler ou Jeannequin, ben évidemment, ça marque quand même. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend la musique. Hein. Plus, tout au moins autant qu'en suivant des cours. Alors, écrire la musique, pour moi, était, je me rappelle, Geoffrey, dans la classe d'harmonie duquel j'étais entré à Lyon, au conservatoire de Lyon, en tout cas la première année d'harmonie, l'harmonie qu'on appelait élémentaire, quoi, nous disait toujours « quand vous écrirez de la musique ». Et ça me frappait énormément.
C'était pas si.
Non, c'était pas si, c'était « quand vous écrirez de la musique ». Ah, je dis, mais c'est pas vrai. Mais enfin, moi, je suis pas capable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il nous dit à ce langage-là? On n'est pas des compositeurs et on ne souhaite pas, a priori, être compositeur. Quoique, ça m'a toujours démangé. Improviser au piano, etc., machin, bon. Ça m'a toujours énormément démangé. Et puis, j'ai découvert petit à petit, et maintenant c'est une conviction, que tout musicien devrait écrire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend la musique aussi. C'est comme ça qu'on apprend la musique et qu'on peut découvrir la distance fantastique qui vous sépare des grands chefs-d'œuvre. Sinon, bon, on reste à la porte, on exécute les chefs-d'œuvre, puis voilà quoi. Mais alors, tandis que là, en faisant, ah ben, il y a plus de, on est coincé quoi. Hein, on voit toute la différence. Qu'il y a. Alors c'est ça, ma démarche c'est ça. C'est non seulement une envie, sans prétention, je suis pas un compositeur avec un grand C, mais j'écris, je continue à écrire, bien entendu, parce que ça m'intéresse, parce que ça m'amuse. Et voilà quoi. Et parce que, encore une fois, ça me semble être une nécessité de musicien. Comme un peintre va peindre, il ne va pas se contenter de reproduire les tableaux des autres, il va peindre ses propres toiles. Bon, et ben c'est la même chose, et il ne va pas être Van Gogh, ni Gauguin, ni je ne sais qui, bien sûr. C'est la même chose. La même démarche.
Alors, vous avez choisi pour clore cette émission, Stéphane Caillat, une pièce de vous qui est un peu hors norme, puisqu'elle est destinée à un office religieux.
Oui, depuis 30 ans à peu près, je m'intéresse aussi, bon, d'une façon un petit peu cachée, quoi, mais pas totalement, à la musique qu'on appelle liturgique, après le Concile de Vatican II, dans l'Église catholique, il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier, on a chanté en français. Donc, beaucoup de choses ont été écrites, pas toujours heureuses, et puis on m'a demandé, pendant des cadres monastiques, d'écrire des choses, et je continue. Et bon, l'an passé, il y a eu un enregistrement. Je fais aussi travailler certaines de ces communautés. C'est un travail très modeste, mais auquel je tiens énormément. Et on m'a demandé de faire un enregistrement avec une communauté il y a un an, non seulement de faire l'enregistrement, mais de faire la musique. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit exemple de ce travail que l'on va entendre.